Stéphane Trouille, salut.
Salut.
Tu es vidéaste et journaliste indépendant, calaisien d'origine, et aujourd'hui tu vis du côté de Valence dans la Drôme. Tu fais partie avec Dylan, Maria et Tom des 4 de Valence, 4 personnes condamnées à de la prison ferme suite à une action des Gilets jaunes. Alors pour résumer l'histoire, hein, au cours d'une action le 8 décembre 2018, vous avez été impliqué dans une bagarre et donc vous vous êtes battu avec des personnes qui se sont avérées être des policiers sans que vous le sachiez à ce moment-là. À ce moment-là, vous êtes arrêté. Envoyé en détention préventive avant même le procès, puis lourdement condamné à de la prison ferme et à des interdictions de manifester. Et deux d'entre vous ont fait appel et c'est cet appel qui a été jugé le jeudi 4 juin. Alors ça te semble un bon résumé, Stéphane ?
Oui, il y aurait des petites choses à dire. Bon, voilà, mais bien sûr, ça résume. Juste dire que ce 8 décembre, en fait, c'était d'abord une action de sensibilisation. Au niveau d'un centre commercial pour sensibiliser sur ce que c'est que ces centres commerciaux par rapport à leur impact environnemental, social, etc. On sensibilisait aussi sur la destruction des services publics. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là qui était important et qui était de discuter avec un tract. Il y avait vraiment, c'était un filtrage au sein de ce centre commercial qui n'a pas plu, bien sûr, aux forces de l'ordre. Par la suite, puisque moi, par exemple, je suis arrivé sur place à 8h30 du matin, mais nous, ce qui nous est arrivé, c'était vers, je dirais, 13h, quoi. Donc, il s'est passé un grand laps de temps où, avec plein de choses chouettes qui se sont passées. Et puis, à un moment, les forces de l'ordre ont décidé qu'il fallait qu'on parte. Et collectivement, on n'était pas d'accord avec ça. On trouvait que c'était légitime, notre action. On est resté. Et il y a eu effectivement cette bagarre qui a éclaté, qui se révélera être une bagarre avec à l'origine deux policiers en civil, absolument pas reconnaissables, comme ils l'ont plus ou moins reconnu, on pourra en parler dans l'appel qui a eu lieu effectivement hier à Grenoble.
Alors justement, on va parler de cet appel. Le procureur et donc aussi ces policiers vous présentent comme des casseurs de flics, c'est ça un petit peu leur ligne d'attaque ?
Alors ça, c'était au premier procès. Effectivement, on avait eu une avocate des policiers et un procureur qui avait utilisé des mots d'une violence inouïe, quoi, effectivement, en nous présentant comme des bouffeurs de flics. Ça c'était au mois de décembre 2018, donc vraiment un réquisitoire à charge, mais oui, quelque part un peu dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, dans les mots, c'était vraiment, oui, c'était une claque. Ce moment restera gravé, moi, dans ma mémoire, hein, au tribunal, quand ce procureur s'est élevé, a élevé sa voix et est parti dans une diatribe de ce type-là, et puis en présentant un petit peu comme quelque part comme le chef de cette bande, qu'on ne se connaissait pas. Enfin, bref, donc ça a été hyper violent au niveau des mots. Hier, c'était d'un autre acabit. C'était d'un autre acabit, puisqu'on a eu donc toujours la même avocate des policiers qui n'a fait que un plaidoyer en fait, hein, de tout le procès qui a duré environ 3 heures. Elle a été plutôt discrète, et un procureur qui était plutôt, je dirais plutôt correct, qui avait bossé son sujet, qui avait des questions que je trouvais pertinentes à laquelle on a répondu. J'ai répondu. Mais complètement différent, dans un ton différent. Et d'ailleurs, il a même fait référence à ce premier procès, effectivement, en disant qu'il n'utiliserait pas ces mots-là, que c'était pas sa vision et que c'était, voilà, il a utilisé d'autres mots. Ça ne l'a pas empêché de demander la même peine, équivalente avec la nuance près que, il le dit dans sa plaidoirie que, il demande d'avoir un placement, puisque c'est 18 mois dont 12 fermes demandées, plus 3 ans d'interdiction de manifester, mais il demande un placement avec bracelet électronique, donc il l'a dit dans sa plaidoirie, mais quand même, c'est la même peine, en fait, hein, avec un procès en plus, 3 heures de délibération où il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été qui ont fait avancer, je trouve, le procès, les idées, la compréhension, je trouve, pour les juges de ce qui s'est passé. mais quand même avec cette demande de toujours aussi comment dire extravagante et disproportionnée de notre point de vue de 18 mois dans 12 fermes, pour en sachant que ce soit moi ou Tom ou même Maria et Dylan qui avant avaient été condamnés aussi à la prison ferme n'avaient pas de casier. Voilà.
Alors vous, votre ligne de défense, c'est quoi? C'est toujours de dire que les policiers étaient en civil, donc vous pouvez pas savoir que voilà, c'était des forces de l'ordre.
Oui, tout à fait. Nous, on reconnaît les violences, en tout cas les coups. Il y a eu des coups de portée, effectivement, des coups qu'on a portés Tom et moi pour désamorcer une bagarre. Comme on l'a dit hier, avec du recul, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, la chose la plus maligne ou la plus… Voilà, ça a été notre réaction. En tout cas, on a agi, on n'est pas resté en marge de ce qui se passait, on n'a pas tracé notre chemin, on est intervenu, on a perçu une agression envers un groupe de gilets jaunes et on a réagi pour faire cesser cette agression et que les agresseurs prennent la fuite, quoi. Donc, c'était un peu ça. Et effectivement, il y a eu de grandes discussions et un débat sur… comment les policiers étaient reconnaissables. Donc, on a parlé, en fait, il y a trois éléments qui peuvent les faire reconnaître. Il y a la voix, le fait de s'identifier et de dire aux personnes qui sont là qu'ils étaient de la police. Il y a le fait de porter un brassard et il y a l'arme. Et en fait, sur chaque point, on en a discuté. Alors, sur le fait qu'ils se sont identifiés, ils ont reconnu qu'ils s'étaient identifiés au début de leur intervention. Mais qu'ensuite, vu la tournure de cette intervention, c'est-à-dire qu'ils ont été pris, enfin, il y a eu des personnes qui sont venues au fur et à mesure en voyant ce qui se passait, et donc effectivement, ils étaient pris puisqu'ils ont reçu des coups, ils tenaient une personne en clé de bras pour l'un, enfin bref, donc ils ont reconnu que non, ils se sont pas, c'était au début, et moi je n'arrive pas au début de cette altercation, mais j'arrive à un moment T. Donc voilà une première chose. Au niveau du brassard, nous on avait fait un gros travail pour travailler sur la perspective, parce que la pièce principale du dossier, c'est une caméra de surveillance publique, hein, sur un parking, qui en fait zoom et qui aplatit complètement la scène, ce qui fait qu'on se retrouve avec une vision d'avoir une impression d'un groupe, d'un amas de personnes proches les unes des autres. Et en fait, grâce à une photo qui a été prise pendant le temps où la caméra filmée, donc ça veut dire qu'on pouvait avoir deux angles à un instant T, on a montré que les distances étaient complètement faussées. C'est-à-dire que sur un angle, on a l'impression que les personnes, donc moi en l'occurrence et un policier, on était proches et en fait, on est à 5,70 m. Donc ça, on a établi par cette photo, par un travail le plus scientifique entre guillemets possible. Moi, je suis formateur en vidéo. Enfin, voilà, c'est des travaux que je fais moi avec des jeunes avec lesquels je travaille. Travailler sur les angles, montrer que selon l'angle qu'on choisit, on n'aura pas la même perception pour le spectateur. Donc ça, c'est un travail hyper important. Et donc on a produit une vidéo qui a été diffusée au procès et qui a montré, je pense, qui a fait réfléchir les personnes qui étaient là pour leur montrer effectivement que cette vidéo, c'était un angle, et en plus un angle vraiment faussé dans le sens où il y avait un aplatissement des distances. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a aussi la question du brassard. Donc là aussi, par rapport à cette vidéo, pièce principale du dossier, où effectivement on voit la scène, où on voit apparaître de temps en temps… sur le bras du policier à qui je fais face, sur son dos de bras, une tache orange, sauf que moi je suis face à lui et la caméra le prend de profil, donc on n'a pas, c'est pas du tout la même chose, moi j'avais pas la même vision, quoi. Et donc il a reconnu avec des arrêts sur image de cette vidéo qu'effectivement il y a des moments où il n'était pas forcément identifiable comme étant force de l'ordre. Donc sur ce brassard, ça a été dit par les deux policiers que effectivement, pour l'un, son brassard en fait est descendu le long de son bras, donc s'est retrouvé au niveau de son poignet alors qu'il était au sol et donc plus du tout reconnaissable, il était sous son pull. Et pour l'autre, son brassard avait tourné et il était de l'autre côté de son avant-bras droit, si je me trompe pas, ou gauche. Enfin bref, qu'il était derrière. Donc Ils ont reconnu. Et ensuite, sur la troisième élément, l'arme qui est effectivement sortie, nous, ce qu'on a mis en avant, c'est qu'en fait, il était, puisque, encore une fois, moi, je n'ai eu affaire qu'à un des policiers en direct, il était habillé tout en noir, avec des gants noirs en plus. Donc, ce qui fait qu'il était vraiment uniforme, noir, et donc, ça jouait. C'était pas comme s'il avait sur le côté, là, une arme qui était à sa ceinture, une arme qui était blanche, ou un pantalon blanc avec une arme noire, enfin, qui crée un contraste. En tout cas, nous on a amené cet élément-là pour dire au juge que, ben, oui, mais la tenue même de du policier faisait que ils étaient difficilement reconnaissables. Là-dessus, on a bien sûr insisté sur le fait que la scène, elle a été très soudaine, elle était très confuse. C'est-à-dire que ça s'est passé très vite. Moi, sur l'altercation, entre le moment où j'arrive et le moment où je repars, il se passe 18 secondes. Ça va très très vite. C'est de la confusion, des gens à droite, à gauche, un brouhaha. Enfin bref. Et dans ces cas-là, enfin, y a la perception, bien sûr, quand on regarde à froid, assis, une image qu'on peut analyser, c'est une chose. Mais après, quand on vit une situation, qu'on perçoit une agression et qu'on arrive sur le lieu et qu'il y a plein de choses à droite, à gauche, c'est complètement différent, quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu essayer, voilà, de parler de tout ça, de parler un petit peu aussi de ce moment qui a été un choc, hein, sur de partir, de voir une arme, etc. Moi, ça m'a marqué, ça me restera dans la tête, je pense, toute ma vie. Enfin, c'est un moment qui est pas, comment dire, qui est traumatisant, tout en reconnaissant, et c'est ça aussi, c'était dit, je l'ai dit hier, que les deux policiers, les deux personnes qui se révéleront être des policiers, ont pu être choqués, c'est effectivement, ont pu avoir peur. Ça, on peut le reconnaître, hein, ils se sont retrouvés face à beaucoup de monde, mais que quelque part, c'était quand même regrettable qu'ils n'aient pas été reconnaissables de manière visible, comme le demande la loi.
Tu l'as dit, tu penses que ce procès en appel va faire quelque part évoluer les choses. Comment tu te sens? Donc le verdict, c'est pas tout de suite, hein, ça sera en juillet si je dis pas de bêtises. Et puis autre chose à propos de ce procès, c'est qu'il avait lieu en huis clos, hein, quelque chose que, me semble-t-il, vous avez dénoncé. Alors, à la fois sur ton sentiment, sur le procès, et puis sur cette histoire de huis clos.
Mon sentiment sur le procès, je dirais que personnellement, il y a eu de la place pour parler. C'était plutôt intéressant dans le sens où, encore une fois, le procureur avait bossé. Enfin, il avait des questions concrètes, notamment sur des déclarations que j'avais faites après le procès, le premier procès. Dans la presse, puisque il y a eu pas mal d'articles de presse qui s'est intéressé un petit peu à la chose, hein. C'était aussi une période par rapport aux gilets jaunes qui était intense. Par exemple, juste pour donner un exemple, il m'a vachement questionné sur mes paroles sur les médias, puisque moi je me suis beaucoup interrogé sur le traitement médiatique de notre affaire, et notamment par exemple le fait que France Inter, au journal de 18h le jour de notre procès, annonce dans le journal de 18h que les quatre prévenus se sont excusés aux policiers. Et ça, je le dénonçais dans le sens où moi, je ne me suis pas excusé. Et je dénonçais pourquoi? Parce que pour moi, dire que les quatre prévenus se sont excusés auprès des policiers, ça voulait dire reconnaître que c'était des policiers. Ce qui n'était pas mon cas. Je ne reconnais pas que c'est des policiers. Moi, je reconnais des personnes lambda. Encore une fois, je ne dis pas que c'était la meilleure solution de faire ce que j'ai fait, de donner trois coups de pied à une personne qui en agresse une autre. Mais en tout cas, ce n'étaient pas des policiers dans ma tête. Donc, je ne m'excusais pas, je ne me suis pas excusé auprès des policiers. Et aussi, par exemple, là, une autre analyse que j'ai faite, c'est le Dauphiné Libéré qui, le matin du procès, titre que les policiers ont eu plus de 8 jours d'ITT. Or, ils en ont eu 2 et 3. Et pour moi, c'est une information fausse et qui ne devrait pas avoir lieu de dire le jour du procès qu'ils ont plus de 8 jours d'ITT. Parce que qu'est-ce que ça veut dire plus de 8 jours d'ITT? Ça veut dire des peines qui peuvent être plus importantes. Et dans la tête des gens aussi, plus du jour du TT, c'est pas la même chose. Et c'est important de dire la vérité dans ces cas-là. Et pour moi, c'est pas anodin que des médias de ce type-là disent des choses comme ça. Donc, il m'a interrogé là-dessus, j'ai pu m'exprimer. Il a reçu ma réponse sans remettre en cause. Et du coup, il y a eu une place pour ça. Il y a eu, donc c'est important aussi parce que je pense que dans un procès, c'est important, je pense, comment dire, de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et au premier procès, c'est vrai que ça avait été difficile. C'était une ambiance vraiment différente et j'étais ressorti un petit peu frustré, je dirais. Alors, et à celui-là, bizarrement, parce que je craignais un petit peu ce huis clos, sans avoir aucun soutien dans la salle, puisque bon, j'y reviendrai juste après. Mais c'était d'une ambiance beaucoup plus apaisée, où il y avait plus la place à la parole, où on a plus s'exprimer de manière sereine, je dirais. Donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, bon, c'était une pression et c'est sûr que en attendant de le vivre, voilà, on dort pas très bien, disons, les deux dernières nuits. Donc voilà, c'est passé et j'en suis plutôt satisfait. Après, effectivement, ce huis clos, on le dénonce, on trouve complètement anormal que pendant qu'on ouvre le Puy du Fou et pendant que les centres commerciaux sont pleins, on fasse un huis clos dans les tribunaux, empêchant même mon papa qui est arrivé du nord de Saint-Omer, qui est venu exprès pour ça, de rentrer. C'est complètement inadmissible. C'est, pour moi, ça joue aussi dans le déroulé d'un procès ou qui a été prévu pour avoir effectivement une cour, avoir des avocats et avoir aussi des gens dans la salle, des journalistes, des personnes proches qui puissent être là en tant que témoins, qui puissent être là pour assister, voir ce qui se passe. Et c'est pas anodin, c'est pas rien du tout. Et le fait de se retrouver comme ça à huis clos, ça change pour moi la donne d'un procès. Ça change un élément qui fait qu'on n'a pas le même procès et qui fait pour moi, c'est au détriment des personnes qui sont jugées. Et donc, effectivement, à noter également une forte présence policière devant la cour d'appel, dans le tribunal. Voilà, tous ces éléments-là qui, quelque part, font aussi nous mettre dans un état psychologique qui n'est pas anodin. C'est pas anodin de supporter ça, de voir ça, de le vivre avant le procès, etc. Donc, ça, on l'a dénoncé. Il y a eu effectivement, aussi un rassemblement devant le tribunal. Bon, ça n'a pas été simple parce que, en ce moment, on risque aussi de se prendre une prune puisque tout rassemblement est encore interdit, ce qu'on a dénoncé. Enfin, comment on peut, encore une fois, accepter que les églises et d'autres, que les usines repartent, que les profits se remettent en route et ne pas accepter une parole sociale et avoir des personnes qui remettent en cause certaines dispositions. C'est pas possible. C'est plus une démocratie. Enfin, de toute façon, pour moi, ça fait un moment qu'on est plus dans une démocratie, mais là, le virage autoritaire et le virage, enfin, il prend encore une tournure plus importante. Donc voilà, il y a quand même eu dehors des personnes qui étaient là, et j'avoue que c'était un moment aussi du procès qui a été, dont je me souviendrai, quand le procureur, dans sa plaidoirie, a fait mention de ce rassemblement qui avait lieu dehors avec des chants, et il a plutôt parlé d'un apaisement, mais il a quand même mentionné ça, pas de manière négative du tout, voilà. C'était important. En tout cas, ça donne aussi un élan. Et moi aussi, si j'ai envie, si aujourd'hui je suis avec vous, si j'ai envie de partager ce que j'ai vécu, mon expérience à la fois de garde à vue, de comparution immédiate, de prison préventive, etc., c'est aussi porté par toutes ces personnes qui sont là, qui ont été là pour écrire pendant qu'on était en prison, qui sont toujours là financièrement pour aider, parce que c'est aussi un point non négligeable d'un procès. C'est aussi la partie financière, hein, parce que entre les frais d'avocat, les allers-retours, les frais d'huissier pour convoquer un témoin, les frais qui sont demandés, puisque par exemple hier, il demande 3000 euros par policier de dommages et intérêts. Donc ça aussi, voilà, ça fait partie un petit peu de la machine judiciaire. Et donc effectivement, c'est hyper important, en tout cas pour moi et pour Tom aussi. Je pense que c'était important aussi qu'il puisse y avoir toutes ces personnes-là présentes et avec qui, à la sortie, on a pu discuter et chanter des chants voilà, qui parlent de la situation actuelle. Et notamment, tiens, un petit coup de pub sur une chanson que je trouve super chouette, qui a été faite par une chorale de Lyon, les Canulars. Ça s'appelle Corona Révolté et je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est une chanson qui parle un peu de cette crise et son traitement. Et qui est très sensé, qui a du sens et qui est entraînante.
On essaiera d'écouter ça, promis. Alors, tu n'es pas la seule personne à avoir été condamnée dans le cadre d'actions de ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un traitement spécial pour toi, pour les gens qui ont participé à ce mouvement social, tu penses, je parle de traitement judiciaire.
Ah bah oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a des faits qui le montrent. À peine le mouvement des Gilets jaunes était-il entamé, que la ministre de la Justice a envoyé une directive au procureur. Alors, j'ai plus son numéro. Bah bref, elle a un numéro pour leur demander d'être une sévérité, pour leur demander les comparutions immédiates, pour leur demander des peines complémentaires pouvant aller jusqu'à 3 ans d'interdiction de manifester, ce qui a été notre cas, puisqu'on s'est pris 3 ans d'interdiction de manifester sur tout le territoire français, ce qui est quand même une décision aussi au-delà de notre peine, qui est complètement hallucinante, de donner 3 ans d'interdiction de manifester à un citoyen. Ben, je veux dire, on est où, quoi? Donc concrètement, ça a été des directives qui ont été lancées à la ministre de la Justice, qui l'a répercuté au procureur, les procureurs qui font leur plaidoirie en demandant ces choses-là, et les juges qui reprennent les plaidoiries des procureurs, ou en tout cas certains juges. Le nôtre, au mois de décembre, c'était le cas. Donc on se retrouve avec des connexions qui se font entre le pouvoir politique et au final, une peine. Enfin, il y a des liens quand même sur ces 3 ans, c'est quand même clair et net. C'était ce qui devait demander, quoi. Donc effectivement, pour moi, il y a vraiment un traitement spécial. Il y a une peur, il y a une volonté pour moi de faire taire, parce que c'est clair que l'expérience de la justice, la simple garde à vue, hein, c'est une expérience qui n'est pas agréable du tout. Une expérience où, juste pour donner quelques éléments, vous vous retrouvez dans une cellule, bon, déjà qui est toute crado, mais où, par exemple, vous avez, moi je me retrouve dans ma cellule, j'arrive dans ma cellule, il y a une serviette au sol qui pue la pisse, ou quelqu'un a pissé dedans, je demande juste au gardien de l'enlever, il me la laisse toute la nuit. Enfin, en fait, mais c'est stratégique, hein, pour moi aussi, hein, la garde à vue, c'est fait pour être dans de mauvaises postures, et quand on va être interrogé par l'OPJ, qui va être tout sympa, qui va vous. C'est avec lui que vous pouvez aller fumer une clope, c'est avec lui que. Et ça vous met dans une disposition où vous êtes plus à même de parler et de dire des choses. Bon, bref, c'est. Mais en tout cas, pour moi, bien sûr que pour faire peur et pour faire taire, ça fait partie des outils, en tout cas avec les procureurs. Et puis après, bah oui, c'est des expériences qui sont traumatisantes où, bah nous, on l'a vu, hein, dans les 4, il y en a 2 qui n'ont pas fait appel. Et pourquoi ils n'ont pas fait appel? Parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de retourner dans la machine judiciaire. Même s'ils contestaient. Ils n'étaient pas d'accord avec le jugement, même si, voilà, mais pour eux, c'était trop dur, c'était quelque chose de, ils sentaient pas, ils avaient envie de, voilà, c'est tout, c'est fini et basta, quoi. Et bien sûr, bah, moi, je pense que c'est une stratégie.
Dernière question, Stéphane Trouille. En ce moment, il y a ce mouvement global, hein, ces manifestations contre les crimes racistes, contre les violences policières. Alors, si tu as interdit de manifester, j'imagine que tu n'y es pas rendu, mais est-ce que tu as l'impression de faire partie de ce même combat?
Alors, je suis pas interdit de manifester puisque quand on fait appel, toutes les peines sont suspendues.
D'accord.
Donc aujourd'hui, j'ai aucune peine et j'ai manifesté depuis 2018. J'ai continué, voilà. Alors bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, ça me touche. Moi, je l'ai vécu. Moi, je fais aussi de la vidéo et j'ai fait par exemple, sur la jungle de Calais, j'ai pas mal filmé, fait des reportages au moment de la première expulsion, grosse expulsion, qui a eu lieu en 2016, si je ne me trompe pas. Et j'ai témoigné de ça, de violence que je pouvais observer des forces de l'ordre sur les migrants et les migrantes qui étaient sur le camp. Donc c'est quelque chose, oui, auquel j'ai été confronté. J'étais aussi, par exemple, à la ZAD du Testet quand Rémi Fraisse est mort, la nuit où il est mort. J'ai pu constater aussi ce qui se passait. Donc, oui, j'ai été confronté, j'essaye de documenter, j'essaye de montrer, voilà, d'essayer de manière objective de montrer un peu ce qui se passe. Effectivement, ça existe. En tout cas, ce que je peux constater actuellement, c'est que les journalistes en France qui, là, s'offusquent de ce qui se passe aux États-Unis, qui parlent pour certains même de violences racistes systémiques, ben, je dirais qu'ils ont un peu un regard qui est coupé en deux. C'est-à-dire que d'un côté, aux États-Unis, c'est systémique, et de l'autre, en France, quand arrivent des crimes du même acabit, je pense à Cédric Chouviat, je pense à Adama Traoré, ben là, non. Là, c'est des actes. Alors, soit on ne les reconnaît même pas du tout et on va dans le sens de la police qui va trouver des circonstances atténuantes, des problèmes cardiaques, des problèmes alcooliques, des problèmes, enfin, tout un tas de situations qui peuvent excuser, ou alors qui vont pointer du doigt les policiers individuellement en parlant de brebis galeuses. Donc voilà un peu une différence de. Alors quand c'est loin, on s'interroge plus globalement sur ce qu'est la police et quand c'est chez nous, là c'est plus la même chose. Donc ça c'est questionnant parce que je pense qu'il y a il faut s'interroger sur ça. Je pense qu'il y a vraiment une grosse interrogation à avoir et un système policier à réinterroger et vraiment parce qu'il y a quand même. Enfin c'est chaque année, il y a un nombre, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais de personnes qui meurent sous les coups de la police, dans les gardes à vue, etc. Et souvent, des personnes, la plupart du temps, hein, elles sont colorées, elles sont noires, elles sont arabes, donc, c'est hyper, hyper questionnant. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je ne pense pas que, effectivement, il y a tous les policiers, c'est difficile de mettre un ensemble de policiers dans la même. Mais je pense qu'il y a quand même des directives qui sont envoyées, des laissez-faire qui amènent des personnes qui peuvent être racistes à commettre des actes de ce type-là. Et peut-être à se sentir couvert parce que ça rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Je veux dire, quand on a 200 plaintes à l'hygiène et qu'il y en a deux qui arrivent à des peines avec sursis, ben, ils sont couverts. Enfin, je veux dire, donc quelque part, ils se sentent intouchables. Et donc, ça influe sur leur manière d'agir au quotidien, dans les manifs, etc. Donc, ça, c'est tout un système qui est en place et qui existe et qui amène à ça quelque part.
Stéphane Trouille, vidéaste et journaliste indépendant calaisien, condamné à de la prison ferme en décembre 2018 suite à une action de gilets jaunes dans la Drôme. Il passait en appel jeudi dernier. Le verdict sera rendu début juillet. Un entretien réalisé vendredi dernier via Internet. Comme promis, quelques mesures. Des canulars pour se quitter. C'était Info 30 sur Radio PFM. Prochaine édition demain, 7h30, 12h30 et 18h. A plus.
Nous sommes en guerre. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là.
Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles? Qui fait baisser la pollution? Est-ce enfin la révolution? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires, est-ce une révolte mondialisée? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont tu bien plus loin des médias. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que là le virus va pas me toucher. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Faut plus d'interaction sociale, mais livrer des fringues c'est vital. Je suis livreur chez Amazon, dois-je laver tous les interphones? Moi je travaille. travaille sur un chantier, on dit de tout désinfecter. Faut-il que je mette du gel sur les parpaings et la truelle? Tous couilles et joues, non, y'a le coronavirus. Tous couilles et joues, non, y'a le coronavirus. Mais confiné, c'est pas marrant, dans un petit appartement ou avec un mari violent et pas de place pour les enfants. SDF, j'ai pas de maison, alors je confine sous mes cartons. Je vais crever de faim, y'a plus personne pour me donner encore le mort. Sans logement, c'est pire qu'avant le coronavirus. Sans logement, c'est pire qu'avant le coronavirus. Depuis 10 ans, tous les soignants crient l'hôpital à l'agonie. À tous ces sourds gouvernants, pas assez de sous, pas assez de lits. Faut dire à tous ces actionnaires qui ont du fric à ne savoir qu'en faire, qui ont donné pour la cathédrale, qu'ils donnent autant pour l'hôpital. Un florissement dans les soignants, y'a coronavirus. Un florissement dans les agents, y'a coronavirus. Ils craignent surtout pour leur pognon, ils ont moins peur d'épidémie que de perdre toutes leurs actions. Nos vies pèsent moins que l'économie. Quand ils voudront nous faire payer au nom du fric du capital, on fera grève illimitée, c'est la révolte qui sera virale. Plus, bien, bien plus que le coronavirus. Plus, bien, bien plus que le coronavirus.